On va continuer notre méditation
sur l'autorité spirituelle. Ouais, super, très bien. Allez, on se fait un rappel de ce qui a pu être dit. Donc la Bible nous parle de différentes autorités, on ne reviendra pas dessus. N'oublions pas ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas toute puissance, elle n'est pas autoritarisme. Gardons-nous toujours, chaque fois qu'on veut savoir une définition de quelque chose, gardons à l'esprit le modèle de Jésus. Amen. Lui qui était doux et humble de cœur était à la fois rempli d'autorité. Donc son autorité ne venait pas de sa force, de son agressivité, ni de la force de ses mots, mais elle venait de son assurance et de la vérité qui sortait de son cœur et de sa bouche. L'autorité spirituelle, c'est une force d'influence que Dieu nous a donnée. Dieu ne veut pas que nous soyons la queue, mais il veut que nous soyons la tête. Bien qu'on est au-dessus des autres, mais il veut que nous soyons des influents et pas des victimes de notre vie. En tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a donné une position, non pas de victime, mais d'entreprenant. Dieu nous a donné la force de ne pas subir la vie, mais de vivre la vie. Amen. Vous aurez la vie pleinement si la vérité vous a franchi. Vous serez réellement libre. Vous aurez la vie en abondance dans votre cœur. Ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau vive jailliront dans son cœur. Il y a un dynamisme, un entrain, un élan qui va de l'avant. Et en tant qu'enfant de Dieu, il y a cette réalité que notre vie, non pas que nous soyons maîtres de notre vie, mais en Jésus-Christ, nous ne sommes pas des victimes de la vie, des victimes des circonstances, mais nous sommes remplis de cette autorité spirituelle. Et puis, il y avait cette notion à comprendre qui était essentielle pour le développement de tout ça, c'est réaliser notre position spirituelle. Nous sommes en Jésus-Christ. D'où cette exhortation que Jésus lui-même a pu dire en Jean, « Demeurez en moi, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Vous avez tout pleinement avec qui ?
En Christ,
en lui. Et ça, c'est vraiment... Donc, gardez à l'esprit cette symbole de la cible. Nous sommes appelés à être au centre, en Jésus, dedans, dans sa plénitude, dans sa promiscuité, sachant qu'effectivement, le diable est celui qui voudra toujours nous pousser vers l'extérieur. Et ça, c'est tout le rôle de notre vie spirituelle, du bon combat de la foi. Paul disait, j'ai gardé la foi. On dit, mais... Ben oui, mais nous aussi on a la foi. Non, mais garder la foi, c'est vraiment demeurer en Jésus, c'est rester en lui, ne pas laisser un iota à l'ennemi. Non pas que l'ennemi va nous mettre hors terrain, mais d'abord il va nous éloigner de Christ jusqu'à ce qu'effectivement, et ça peut arriver, que nous soyons carrément en dehors de la cible. Mais là, c'est carrément en dehors du salut. Mais c'est vrai qu'on peut vivre une vie chrétienne encore dans la cible, mais quand même bien loin du centre. Du coup, on vit une vie... petite vie religieuse, quoi. Une petite vie, on va à l'église, on lit la Bible, on prie, mais il n'y a pas l'autorité, il n'y a pas l'extraordinaire, il n'y a pas le dynamisme, il n'y a pas l'entrain que le Seigneur pourtant nous a acquis par cet héritage spirituel que nous avons par la foi. La semaine dernière, nous avions vu donc le premier domaine d'influence, qui est celui que Jésus nous a donné de chasser les démons. Rappelons-nous, il n'y a pas des spécialistes de la démonologie. Si Christ est en vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et là, il y a juste une position spirituelle à avoir. Pas à craindre, vous n'êtes pas appelé le monde entier. Oh, s'il vous plaît, à prier parce qu'il y a le monsieur, il a un problème avec un démon. Vous avez en vous celui qui a chassé, qui a anéanti le pouvoir des ténèbres. Amen. Le deuxième domaine que nous allons voir, alors je vous invite à ouvrir, on va relire Marc chapitre 16. Merci pour l'inspiration des chants de ce matin, ça ne pouvait pas mieux tomber. Marc chapitre 16, alors on va essayer ce matin de voir deux autres domaines de l'autorité que Dieu nous a donné, évidemment dans deux domaines encore différents. Marc chapitre 16, tout le monde y est ? On va reprendre notre lecture à partir du verset 14 pour nous rappeler le contexte que le Seigneur voudrait déjà supprimer de nos cœurs. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Avec ça, on ne peut rien faire, mes bien-aimés. Parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde, mission,
et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Signe d'obéissance. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles, les signes, serait-il un terme plus adéquat, qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, number one, ils chasseront les démons. Deux, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, c'est ce qu'on va voir. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ouais, c'est une fois que vous avez bu le breuvage, on vous impose vite les mains pour être sûr que vous arriverez. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et je vous rappelle que nous, Christ nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Amen. Donc là, il est assis, mais nous aussi, spirituellement, on est déjà installé là-haut. Spirituellement, c'est déjà acquis tout ça. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Et ça, c'est notre rôle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnent. Amen. Ce matin, on va voir deux signes. Le premier qui est celui de le parler en langue. Et le deuxième, ce sera celui de saisir des serpents. Deux choses un peu bizarres quand même. Franchement, si vous allez dans la rue et vous dites « Ah, vous savez, par Dieu, je parle une nouvelle langue et je saisis les serpents », les gens vont dire « Ils sont complètement cinglés là-dedans. » Voilà, c'est... Et vous buvez du poison aussi ?« Ah bah oui !» Ah bah d'accord. Parler de nouvelles langues. Alors c'est vrai que c'est complètement fou. Heureusement, j'ai envie de dire, que c'est Jésus qui en parle le premier dans la Bible.
Oui.
Il y a malheureusement, à cause d'un manque de discipline, de maîtrise de soi, beaucoup de gens qui ont été choqués, surpris, en arrivant dans des églises où le parler en langue n'étant pas canalisé comme il devrait être, maîtrisé. Je vous rappelle que la maîtrise de soi fait partie du fruit de l'esprit. Donc, si c'est le même esprit qui donne la maîtrise de soi et qui donne le parler en langue, je ne pense pas qu'il y ait incompatibilité. Ok ? Donc, ce n'est pas parce que « Oh, je suis rempli, je ne peux rien faire !» Non, ça, c'est faux. Qu'il y ait beaucoup d'émotions, d'accord ? Mais ne dites pas que c'est le Saint-Esprit qui vous domine, c'est vos émotions. Mais après, c'est tout à fait normal qu'il y ait un travail de gestion de nos émotions, ça c'est tout à fait normal, c'est comme un don spirituel au début, ça bouillonne, on maîtrise mal, mais on est appelé à apprendre à équilibrer les dons et le fruit. Donc faisons attention, parce que c'est vrai qu'il y a eu de nombreuses personnes qui ont été choquées par des parler en langue non maîtrisée, et ça a entraîné certains loin de l'église. Certains sont même allés dans d'autres congrégations qui, elles, ne prêchent pas le plein évangile parce que ça les a troublés, étonnés. Mais heureusement que c'est Jésus qui en parle le premier. Après, on s'aperçoit, alors je vous ai mis quelques références, Actes chapitre 2, Actes chapitre 10, Actes chapitre 19, ce sont des situations où le Saint-Esprit a été répandu sur une assemblée et les gens se sont mis à parler en langue. Et ça a été surprenant. Certains ont dit, mais ils sont ivres là-dedans. Là. Mais on ne peut pas être ivres, il n'est que le matin. Mais bon, c'est la promesse que Dieu nous avait donnée de nous remplir du Saint-Esprit. Et c'est vrai que heureusement que c'est Jésus qui en parle, parce que à part le livre des Actes et ces circonstances-là, il n'y a pas d'autre exemple de parler en langue. Donc heureusement que c'est Jésus qui a dit, oh, il va se passer un truc. Ce sera un des signes qui manifestera la puissance que je vous donnerai. Vous parlerez de nouvelles langues. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 5. Dans ce verset-là, Paul dit qu'il souhaite que tous parlent en langue. Tous. Que personne ne se dise « Ah oui, mais c'est pas pour moi, c'est pour les autres. » Paul dit « Mais j'aimerais tant. » Mais pourquoi est-ce que... Dites-moi un instant. À votre avis, pourquoi Paul souhaite que tous parlent en langue.
C'est difficile.
Parce que ça doit être bon. Okay, effectivement, il va dire que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais comprenez que la préoccupation, le souci, le désir du pasteur de l'époque, c'est « mais je voudrais tellement que vous parliez tous en langue ». C'est que lui-même réalise qu'il y a là une dimension de bénédiction pour chacun des membres de l'assemblée. Et il dira carrément au verset 18 qu'il bénit le Seigneur parce que lui, il parle en langue plus que les autres. On pourrait dire, t'es un peu prétentieux, qu'est-ce que tu sais de ma vie? Mais ce qu'il voulait dire dans cette expression, je parle en langue plus que vous tous, c'est qu'il parlait abondamment en langue. Il le dit toutefois dans l'assemblée, je préfère dire 5 paroles. Ça nous montre que les prières de Paul ne duraient pas plus de 5 minutes. Hein. Je vais dire 5 paroles en langue, 5, oh là là, je préfère dire 5 paroles en langue que 5 paroles avec mon intelligence, mille excuses, que 10 000 en langue dans l'assemblée. Mais ce qu'il veut dire, c'est que dans son intimité, dans sa vie de piété personnelle, là il était abondant dans sa vie de parler en langue. Il priait abondamment en langue. Et c'est pour ça qu'il dit, mais je voudrais tellement que vous puissiez vivre ça, parce que moi, dans ma vie personnelle, je vous assure, c'est de la dynamite. Et quand on voyait le témoignage de Paul, il était un peu crédible.
Oui.
Le parler en langue, il y a un peu un faux débat. Je voudrais pas m'aventurer sur ce débat-là, et en fait, je veux juste l'évoquer justement pour nous amener à réaliser autre chose. Le débat, c'est se dire, est-ce que le parler en langue, c'est le signe du baptême dans le Saint-Esprit? Alors, il y a un grand débat. Est-ce que c'est un signe évident? C'est-à-dire que c'est, quand on parle en langue, c'est évident qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit. Est-ce que c'est un signe initial? C'est-à-dire que dès que l'on commence à être baptisé dans le Saint-Esprit, hop, instantanément, on parle en langue. J'ai envie de vous dire que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ou que ce soit rien du tout de tout ça, c'est un faux débat. La première question à se poser, c'est est-ce que le Saint-Esprit est en moi? Si vous avez confessé vos péchés, vous êtes repenti, il s'est passé une action surnaturelle, c'est que vous êtes né de nouveau. Il y a une transformation de votre être intérieur. Il y a des aspirations aux choses spirituelles. Il y a une affection pour la parole de Dieu. Et en même temps, il y a une répulsion pour le péché. Il y a une répulsion pour tout ce qui n'est pas attaché à la pureté, à l'amour, à la douceur. Il y a une attirance vers les choses d'en haut. Il y a une sorte de réticence pour les choses de la terre. Et on a envie de grandir. Notre regard change, notre vocabulaire change, nos sentiments changent. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Et chacun pourrait y mettre ses propres mots, mais il faut réaliser qu'il y a une transformation de l'intérieur. Cette transformation de l'intérieur se fait par quelle puissance? La puissance du Saint-Esprit. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que j'ai expérimenté cette nouvelle naissance? Si vous avez expérimenté cette nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu est en vous. À partir de là, vous avez l'essentiel. Qu'est-ce que signifie être baptisé dans le Saint-Esprit? C'est être immergé du Saint-Esprit, on est d'accord? Je ne crois pas que la question soit de se dire, mais est-ce que je parle en langue, est-ce que je ne parle pas en langue? Est-ce que je suis baptisé dans le Saint-Esprit parce que je parle en langue, ou est-ce que je ne parle pas, est-ce que je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit parce que je ne parle pas en langue? Je crois que c'est un faux débat. Je connais des gens qui parlent en langue, mais le feu du Saint-Esprit ressemble à une petite allumette.
Ah oh oui! En 1842, je suis baptisé dans le Saint-Esprit!
Mais t'entends, ils sont juste baptisés depuis 2005, hein?
Ah oui, j'étais baptisé dans le Saint-Esprit.
Mais il n'y a pas de vigueur. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas la mission d'évangile. Il n'y a pas d'enthousiasme pour les choses d'en haut. Alors que si vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est normalement pour on ressemble plus à une cocotte minute qu'à un petit briquet. Et d'autres, ne parlant pas en langue, ça bouillonne dans le cœur. Ça bouillonne. Ils aiment la présence de Dieu. Ils ont toujours envie de lire la Bible. Ils ont envie de parler du Seigneur. Dès le matin, Ah, ils se connectent au Seigneur et ils sont contents. Il y en a, ils reflètent cet enthousiasme. Dans tout ce qu'ils font, ils sont connectés au Seigneur. Dès qu'ils ont une contrariété, dès qu'ils font une boulette, dès que même ils pêchent, parce que ça n'empêche pas. Alors, il n'y a pas de jeu de mots, mes excuses. Tout de suite, ils se ressaisissent. Il y a la crainte de Dieu. Ils disent, oh pardon Seigneur, change mon cœur, j'ai envie de grandir. C'est ça. Ça, c'est le fruit de quelqu'un qui est animé par le Saint-Esprit. D'ailleurs, Paul le dira, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, vous n'êtes pas sauvé. Il faut qu'il y ait cette mentalité. Ça, c'est la description d'un vie d'un disciple. Oui, mais celui-ci, là, celui qui est plein de feu, il ne parle pas en langue. Est-ce qu'il n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit? C'est un faux débat. Parce que la question, ce n'est pas savoir si c'est un signe. Ce qui est important de réaliser, c'est que le Saint-Esprit, le parler en langue, c'est une puissance d'influence dans le monde spirituel. Si on se focalise, c'est un signe ou c'est pas un signe, mais en fait, dans une voiture, qu'est-ce qui est important? Le moteur ou la couleur de la voiture? Voilà. Alors, il y en a, ils mettront plus d'importance sur la couleur. Bah, si vous voulez. Mais honnêtement, en principe, à la base, ce qui est important, c'est le moulinet qui est dedans. Et le parler en langue, c'est pas vraiment les mots qui importent de réaliser. Ce qui est important, c'est de réaliser que si je laisse le Saint-Esprit en moi, je vais rentrer dans une dimension de puissance spirituelle dans ma prière. Amen. Et ça peut faire tout un déclic dans la vie de ceux qui ont envie de plus. Si Seigneur, je voudrais aller plus loin avec toi, Seigneur, je voudrais aller plus loin avec toi, et bien lâcher prise et réaliser qu'en parlant en langue, c'est le Saint-Esprit qui intercède au travers de vous, comme il est dit en Romains chapitre 8, verset 26. Le Saint-Esprit passe en vous, mais il va se servir de votre corps pour vous entraîner dans une dimension spirituelle. Le parler en langue, qu'importe si c'est signe ou pas signe, c'est pas ça l'essentiel. Mais nourrissez ce désir, cette conception, cette compréhension que quand vous parlez en langue, Dieu vous a donné une puissance d'influence dans le monde spirituel. Et là, on comprend mieux pourquoi Paul parlait abondamment en langue. On comprend mieux pourquoi on est baptisé dans le Saint-Esprit quand il y a une faim, quand il y a une soif, quand il y a un désir, quand il y a une envie de bouger les choses spirituellement parlant. Quand on laisse le Saint-Esprit nous remplir, c'est une puissance d'influence dans la prière, dans l'intercession. C'est une puissance d'influence dans la louange. Notre louange, on sent que c'est tout notre être. Et c'est pour ça que Dieu a voulu que ce soit notre bouche. Parce que Dieu nous a créé esprit, âme et corps. Et quand on parle en langue, c'est tout notre être qui est dedans. On prie spirituellement, mais on prie aussi en même temps avec notre intelligence. Non, c'est pas forcément le sujet express, même s'il y a des fois certains sujets, on est tellement à bout de mots qu'effectivement on laisse notre langue parler en langue. Mais il y a des fois, c'est juste notre être intérieur qui travaille, et on parle en langue. Et qu'importe si on ne connaît pas, si on ne comprend pas, mais on réalise de tout notre être qu'on est dans un combat spirituel. Et c'est tellement important de dire. C'est pas important que vous parliez en langue, mille excuses. Ce qui est important, c'est que vous réalisiez qu'en parlant en langue, vous rentrez dans une puissance d'influence spirituelle. Amen. Et ça, c'est important. C'est important que vous aspiriez. Dire, Seigneur, je veux plus. Dans ma vie spirituelle, je veux aller plus loin. Et puis, il y a des fois, on est tellement limité. Sincèrement. Même si on a une super liste à la maison. Tantôt, on peut avoir la liste, mais on n'a pas forcément le cœur pour prier, n'est-ce pas? Alors, mettez-vous sur mode... Parlez en langue. Et laissez. Prenez du temps avec le Seigneur. Que ceux qui sont déjà baptisés dans le Saint-Esprit et qui déjà ont expérimenté le parler en langue, parlez abondamment en langue, mes bien-aimés. Il y avait un pasteur que j'ai connu. Chaque fois qu'il avait l'occasion d'être au pupitre, la première chose qu'il demandait, il disait « Avez-vous parlé en langue aujourd'hui ?» Mais la question, elle est bonne, elle est judicieuse. « Avez-vous parlé en langue aujourd'hui ?» Vous qui ne l'avez pas encore, parlez en langue. Ne dites pas que vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit. Ne dites pas que vous ne le méritez pas. Ne dites pas que vous êtes un moins que rien. C'est faux, c'est un mensonge. Ça, c'est le diable qui vous fait croire ça. Ne culpabilisez pas. Aspirez tout simplement. Allez plus loin. Dis, Seigneur, je rentre dans cette dimension. Aide-moi, Seigneur. Ce qui est important dans la prière, c'est pas ce qui sort de la bouche. Ce qui est important, c'est le dynamisme qu'il y a dans le cœur. C'est le cœur qui entre. La bouche parle de l'abondance du cœur. Il y a des fois, il y a des prières. Bon, voilà quoi. Bon, c'est bon. Ok ? On passe au sort ? Tout est clair ? Le deuxième sujet nécessite peut-être un peu plus d'explications, mais sera assez rapide aussi. Saisir des serpents. Qui a fait le test à la maison ? Est-ce que certaines personnes ont réellement déjà été face à un serpent ?
Oui.
Quel effet ça vous fait ?
C'est froid.
Ça c'est déjà, c'est pas la première rencontre ça d'ordinaire, hein. Mais la première rencontre ça fait comment ? Vous me dites, vous avez pas la pétoche ? Ah bon, ok. Là, la question c'est de se dire, est-ce que quand Jésus dit ils saisiront des serpents, est-ce que ça a un sens littéral ou figuré ? En fait, la question c'est ça. Est-ce qu'il faut avoir la puissance de Dieu pour prendre un serpent ? Il faut reconnaître qu'il faut un peu de courage, mais certaines personnes du monde sont peut-être plus courageuses que nous devant des petits serpents. En plus, ça dépend quel type de serpent c'est. Souvent, on a peur des serpents parce qu'on ne sait pas ce que c'est comme serpent. Tendance, c'est juste des petits orvets, là, c'est ça. Hein, ouais, couleuvre. Alors, on est là. Ah, serpent ! Alors, certains commentateurs ont retenu le sens littéral. Pourquoi ? Parce qu'ils vont nous parler de la situation où Paul, lorsqu'il a fait son dernier voyage missionnaire relaté dans le livre des Actes, avec le bateau, ils ont échoué sur une île déserte, il pleuvait, la nuit venait, donc les gens ont décidé de faire un feu de fortune, là, alors chacun est allé chercher du bois, et puis hop, Paul, là, dans la nuit, il met la main à la broussaille, tac, ouf, paf, un serpent était accroché à sa main. Comprenons qui ? Un serpent. Oh, il a secoué ça au-dessus du feu, le serpent a lâché. Et les gens, ils l'ont regardé, ils disent, il a échappé au naufrage, mais les dieux sont allés le juger, ils ont envoyé un serpent pour le tout tuer. Et puis le temps passait, puis notre apôtre Paul, il chantait les cantiques, il était là, il prêchait l'évangile, ça va, tu sais, Jésus t'aime et tout. Je dis, mais il a rien, lui. Et là, les gens, ils ont changé d'idée. Ils disent, ah, en fait, c'est pas le jugement des dieux. C'est que lui, au contraire, c'est comme si c'était un dieu. Et voilà que il a pu annoncer l'évangile de manière incroyable là où il était. Alors, c'est un signe, c'est un miracle qui s'est passé là. Je me souviens une fois que j'avais eu l'occasion d'aller au Burkina Faso et un jour je me suis fait piquer par un scorpion. Oh, tout le village était au courant que le blanc s'était fait piquer par un scorpion. Et t'as rien ? Je dis non, j'ai rien. Oh, c'était formidable. Oh, le message de l'évangile. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un rapport comme ça à la nature qui fait que les hommes ont toujours été surpris. Mais si on relit ce que dit Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Nous saisirons des serpents. Paul n'a pas saisi de serpent. Il s'est fait mordre. Pas un serpent. La relation est différente. On voit bien que dans la notion de saisir, il y a là une intention, une action. Vous saisirez les serpents. Alors je pense qu'il y a plutôt un sens figuré que l'on peut associer à ce que Jésus déjà avait dit en Luc chapitre 10 et verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir, oh, on est dans le thème, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vous comprenez l'allusion que Jésus fait là ? Vous comprenez que derrière l'image du scorpion et du serpent, il est en train de nous parler d'une puissance de l'ennemi. On a besoin de le définir. C'est l'ennemi de notre âme. C'est lui qui est l'ennemi.
Et rien ne pourra vous nuire. Et là, essayez de comprendre ce que Jésus est en train de dire. Ce verset-là est dans le contexte où Jésus leur avait déjà donné le pouvoir de chasser les démons. Ils annoncent l'évangile partout, ils chassent les démons, ils sont super contents, ils reviennent vers Jésus. Oh, si tu étais là, t'aurais vu les démons, comment ils ont dégarpi. Et il leur rajoute ça. Et comprenons bien que dans cette phrase-là, il n'est pas en train de dire « vous chasserez les démons », ça il l'a déjà dit. Il est en train de dire qu'il nous a donné l'autorité, la puissance d'écraser les serpents qui chercheraient à nous nuire. Vous comprenez ? Je n'ai plus les démons que l'on va chasser chez les autres. Chose qu'il a déjà dit avant, vous chasserez les démons, c'est fait. Mais là, il nous donne la puissance. Et là, on peut visualiser la situation. De saisir les serpents qui voudraient venir vers nous. De les prendre. Parce que quand il est dit saisir, c'est le même mot que celui de prendre. Que de prendre pour jeter. C'est la même notion que le fait de ramasser pour éloigner. C'est pas seulement le prendre et le mettre autour du cou. C'est vraiment prendre pour déplacer, pour jeter. Vous chasserez les serpents qui chercheraient à venir vous nuire. Faisons une petite liste de quelques serpents connus. Le premier serpent qu'on voit dans la Bible se trouve dans la Genèse. Et puis, ce serpent-là a le visage du doute. Dieu a-t-il réellement dit ? Le serpent du doute. Et permettez-moi de vous dire que dans notre vie, nous avons plein de serpents sur lesquels nous devons écraser la tête, éjecter de notre vie, et notamment celui du doute. Est-ce que vraiment le Seigneur peut faire ça pour toi ? Tu crois vraiment que ? Oui, tu as lu ça, mais bon, ouais, cette promesse qu'il t'a faite, tu crois vraiment ? Oh, le doute. Le même serpent avait un autre visage, celui du mensonge. Mais non, vous ne mourrez pas. Le serpent du mensonge est à bannir de notre vie. Le serpent, c'est le même serpent qui est encore ce jour-là, encore utilisé d'une autre bouche pour séduire. Vous serez comme des dieux. Voilà dans une phrase. Tout le doute, la séduction, le mensonge. Mais nous pourrions faire une liste de serpents qui régulièrement cherchent à nous faire sortir de notre place centrale au milieu de la cible. Alors j'en ai énuméré quelques-uns. Le serpent de l'angoisse, la peur, la culpabilité, le découragement, le malaise intérieur, la tiédeur spirituelle, la paresse, la colère, la rancœur, l'orgueil, la désobéissance, la cupidité, l'adultère, la jalousie, et je manquais d'inspiration. Mais comprenons qu'au travers de l'image du serpent, c'est autant de pensées qui viennent de manière très insinueuse, silencieusement dans notre vie. Ça s'approche, on n'y prend pas garde, et puis ça s'installe. Ça fait son petit trou, les serpents. Vous savez, ça ne fait pas une cabane, hein, les serpents. Ça se niche. Et ça s'installe. Et ça fait ses petits œufs. Et ça fait beaucoup d'œufs. C'est un peu comme les chats, ça. Ça fait plein d'œufs. Et après, vous avez plein de petits serpents. Mais notre devoir, l'autorité que Dieu nous a donnée, c'est que quand on voit chacun de ces serpents venir, il faut que nous ayons du discernement, mes bien-aimés.
Amen.
Il faut que nous ayons du discernement. Derrière nos petits sentiments, vagues à l'âme, état d'âme, réalisons qu'il y a une réalité spirituelle. Et nous devons nous saisir, nous ressaisir. Comme quand on est devant un serpent, on a deux solutions. Soit on court. Maintenant, il y en a trois. Soit on reste tétanisé de peur. Et là, si c'est plus qu'à Norvège, vous êtes mal barré. Ou alors vous agissez contre lui. Alors vous avez chacun prend ses à la main, avec un bâton, vous faites comme vous voulez. Mais il n'y a que trois solutions. Soit vous fuyez, soit vous restez tétanisé, ou alors vous saisissez. Le problème, c'est qu'avec le diable, si vous courez, vous inquiétez pas, il vous rattrapera.
Si vous restez tétanisé, il vous a déjà vaincu. Et un slogan de footballeux, la meilleure défense,
c'est l'attaque.
Oui. Spirituellement, c'est pareil.
Amen, amen.
C'est pour ça qu'il nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de saisir les serpents. Mais j'ai pas du tout envie. Mais le Seigneur t'a donné autorité.
Amen.
Surtout qu'un serpent, vous ne le prenez pas à la queue. Hein. Il faut le saisir justement à la tête, parce que si vous le prenez à la queue, il se retourne et il vous mord. Mais attends, mais c'est là qu'il y a l'écrou, ben justement. Et c'est là toute une leçon spirituelle. Il faut prendre le mal à la racine, mes bien-aimés. Il faut prendre le mal à la racine. Oui, mais j'ai peur, il me regarde, les crocs sont là. Eh ben, mets ta main. Le Seigneur t'a dit de prendre ce serpent de ta vie et de le balancer, de l'écraser, de l'éjecter de ta vie, quel que soit ce sentiment, quel que soit cette appréhension, quel que soit le conflit que tu as intérieurement, si tu ne fais rien, c'est ce serpent-là qui va te bouffer. Les serpents ont différentes techniques. Il y en a qui travaillent par étouffement. Oh non, je ne veux rien faire. Et puis vous laissez ça, vous laissez ce mauvais sentiment, vous laissez ces mauvaises pensées, et ça vous entoure, ça vous entoure, ça vous entoure. Oh, ça va, je vis avec. Mais au bout d'un moment, vous allez asphyxier. Parce que quand on laisse des serpents dans notre vie, quand on laisse des mauvais raisonnements dans notre vie, lorsqu'on laisse la peur entrer dans notre vie, ça finit toujours par nous étouffer. Et on croit que demain, ça ira mieux, mais c'est un mensonge. Parce que le serpent, lui, prend son temps, vous savez. Il prend son temps. C'est silencieux, un serpent. Hein. Il travaille. Il y en a d'autres qui paralysent. Ils se servent de la peur des gens. Ils vous fixent. En fait, c'est une relation de domination. De dominer. Et il y a des situations comme ça où les chrétiens sont dominés par la peur, dominés par la circonstance, dominés par l'avenir. Il y a trois déguisements du diable qui sont très facilement distinguables. La peur, la culpabilité et le découragement. Vous pouvez être l'homme le plus intelligent, le plus fort, vous pouvez être la femme la plus vertueuse. Si vous êtes atteint d'un de ces trois venins-là, vous n'avancez plus. La peur, le découragement, la culpabilité. Quand déjà vous sentez ces sentiments venir dans votre vie, il faut que vous réagissiez immédiatement et que vous rejetiez. Tous ces sentiments-là sont comme des serpents qui cherchent à vous influencer. Mais le Seigneur vous a appelé à être la tête et non la queue. Non pas être des victimes de la vie, non pas être des victimes entourées de serpents. Oh, qu'est-ce que je fais? Mais vous les prenez un après l'autre. Et les serpents appellent les serpents en plus. D'autres serpents blessent. Oh, ils ne vont pas vous tuer, mais ils vont vous blesser. Et régulièrement, si vous laissez, je pense à la jalousie, par exemple. Si vous laissez toujours cette pensée être en vous, régulièrement, vous serez piqué, marqué, blessé dans votre vie, et vous n'avancerez pas dans votre vie spirituelle. Vous serez un chrétien, mais comme Clopin. Parce que régulièrement, vous aurez ces pics, ces crocs qui vous auront fait mal. Et alors que vous aurez remporté des victoires spirituelles, et ben le diable sera là, il va envoyer son petit serpent, il va vous mordre et clac. Vous dites, oh, j'avance plus. Chaque fois que j'avance, j'ai l'impression que ça va plus après. Mais oui, parce qu'il y a un combat spirituel. Et quand on voit des serpents, il faut que nous ayons et que nous usions de discernement spirituel.
Amen.
Le Seigneur nous a donné quoi? Le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la fidélité, la maîtrise de soi. Mais c'est ça, c'est là-dedans que nous devrions vivre. C'est normal qu'il y ait des coups de cafard. C'est normal qu'il y ait des agressions extérieures. C'est une chose normale qu'être tenté. C'est une chose anormale que de succomber à la tentation. C'est une chose normale que de voir des serpents nous impressionner. C'est leur rôle, c'est leur job. Mais notre responsabilité, c'est de saisir ces serpents et de les balancer. Alors bien sûr, le temps où on saisit le serpent, on le jette, on n'a pas le sourire jusqu'aux lèvres, on est d'accord. Il y a un combat. Mais on doit prendre cette autorité. Des serpents ont des venins qui ne sont pas forcément mortels. Certains, vous êtes complètement shootés, quoi. Ou paralysés, Vous avez des vertiges, vous êtes des nausées, vous n'êtes pas bien pendant 3-4 jours. Ils ne sont pas mortels. Mais c'est le péché, ça. Chaque fois que l'on pêche, oh Seigneur, pardon, d'accord. Mais n'empêche que pendant quelques temps, on supporte les conséquences de notre péché, n'est-ce pas? On n'a pas une vie spirituelle pareille. On n'a pas le caractère aussi enthousiaste que les autres fois. On lit la Bible, mais elle est un peu lourde aujourd'hui. Le salaire du péché, les effets du péché sont mesurables, quantifiables. Ah oui, je demande pardon, je serai sauvé. Oui, c'est vrai. Mais tu perds ton temps. Tu perds de l'énergie. Tu manques le but. Tu t'éloignes. Et si tu laisses en plus régulièrement ce serpent t'infecter, tu vas finir par croire que c'est ça la norme. Oh, la vie chrétienne, oh. Mais c'est faux. C'est parce que tu laisses le serpent régulièrement te piquer, t'empoisonner. Et tu crois que c'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est ta flèche qui est en plein milieu de la cible. En Jésus-Christ, amen. Rempli de cette autorité, de cette joie, de cet enthousiasme, de cette puissance que Dieu nous a donnée. Certains, effectivement, sont équipés de venin puissant, mortel. Parce qu'effectivement, à force de laisser toutes sortes de serpents nous atteindre, eh ben, il y en aura un qui finira par nous atteindre efficacement. On ne peut pas jouer avec le feu sans jamais se brûler. On ne peut jamais jouer avec le péché et croire qu'on aura le dernier mot. On ne peut pas s'amuser avec les bêtes féroces et croire que jamais ils ne nous toucheront. On ne peut pas s'amuser avec le diable et croire que nous aurons le dernier mot. Si le diable vous fait croire que jusqu'à maintenant, vous avez la main, il est juste en train de jouer au poker avec vous, il est en train de vous bluffer. Parce que la dernière carte qu'il posera sur la table, ce sera foutu pour vous. On ne peut pas jouer avec le diable. On ne peut pas jouer avec le péché. On ne peut pas jouer avec notre sanctification. On peut jouer devant les hommes, on peut même jouer devant le pasteur, c'est pas un problème. Jouez avec moi. Et c'est votre vie à vous. Nous sommes responsables. Je suis responsable de ma vie. Vous êtes responsable de votre vie. Et nous devons veiller à décapiter la tête de tous ces serpents. Parce qu'il nous a donné le pouvoir. Et il y a des circonstances où il faut crier au Seigneur. Il y a des moments où il faut se secouer parce qu'on est complètement hypnotisé par cette ambiance, par la couleur, par l'euphorie, par le contexte, par la tiédeur, par le poison qui s'est immiscé dans notre corps. On n'a plus de sensations. Et il faut crier au Seigneur. Quand vous réalisez que vous n'avez pas cette vie pleine et entière avec le Seigneur, il est temps de rentrer chez vous et dire « Seigneur ! Visite-moi, je veux sortir de ce carcan, je veux sortir de cette anesthésie, je veux sortir de cette tiédeur spirituelle. » À un moment, il faut se réveiller, il faut ouvrir les yeux pour saisir un serpent, il faut le regarder bien en face. Je vais prendre le serpent comme ça et que vous voilez vous-même la face, vous le saisirez jamais. À un moment, il faut regarder bien en face les situations et prendre une autorité, se ressaisir soi-même, dominer nos peurs, dominer nos craintes, dominer nos faiblesses. Et il faut mettre la main, il faut y aller, il faut agir, il faut prendre la tête de celui-ci et le balancer, parce que ça fait trop longtemps pour certains qu'ils sont manipulés par ces ennemis qui les entourent. Trop longtemps que vos pensées sont polluées. Trop longtemps que vous n'avancez plus parce que vous êtes là comme devant quelque chose et vous savez même vous pas trop qu'est-ce qui se passe, mais il faut avancer. C'est pour votre vie, c'est pour votre grâce, c'est pour votre famille. Ayons du discernement. Et c'est toujours bien plus simple, comme avec le péché, de réagir tout de suite que d'attendre demain. Il faut réagir tout de suite. Si on a une situation qui nous pollue, et on a une conscience, hein, donc normalement ça fonctionne bien, Dieu a fait en sorte que ça fonctionne bien, même chez les inconvertis. Dieu nous a donné une conscience. Donc on a des situations où c'est... Mais ne mettez pas le couvercle dessus. Si ça vient dans votre conscience et que c'est ça que Dieu veut que vous régliez maintenant, c'est tout. Vous ne cherchez pas midi à 14h. C'est facile de régler des problèmes qui... Hein ? Mais si votre conscience est en train de vous éclairer sur un point ou deux, c'est ces points-là que le Seigneur vous demande de régler. Soyons simples, obéissants, spontanés.
Amen.
Et réalisons qu'il nous a donné le pouvoir d'agir et de réagir le plus vite possible, le plus tôt possible. Ne laissons pas les serpents détruire nos couples. Ne laissons pas les serpents détruire nos familles. Ne laissons pas les serpents détruire nos enfants. Ne laissons pas le serpent détruire la paix, la joie que le Seigneur nous a donnée. Mais honnêtement, si on n'a plus cette paix, cette joie du Seigneur, mais qu'est-ce qui nous reste ? Qu'est-ce qui nous reste ? Rien. Ne laissons pas le serpent anesthésier notre amour. Ne laissons pas le serpent le venin de ces serpents toucher notre zèle pour l'évangile. Ne laissons pas ces serpents gâcher notre piété, notre engagement, notre détermination pour les choses d'en haut. Ne laissons pas ces serpents laisser plein de petits œufs dans notre esprit. Parce que si on accepte un serpent dans nos... il va nous faire des petits œufs qui eux-mêmes vont refaire plein de petits doutes de serpents dans notre esprit, dans nos raisonnements. Et la vie est de plus en plus dure et piquante et difficile et empoisonnée. Ne laissons pas tous ces serpents dominer nos émotions, nos pensées, nos logiques. Mais saisissons-les. Dieu nous a donné une autorité.
Amen.
Et c'est ça l'autorité qu'il nous a donnée. C'est premièrement sur nos propres vies, sur nos propres cœurs. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur ces scorpions, de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien ne puisse vous nuire, rien. Il y a cette simple phrase que Dieu a dit à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Il a promis d'être avec nous. Et c'est à nous d'accepter de regarder les choses bien en face, d'avoir du discernement spirituel et de nous lever pour chasser tout ça de nos vies. Amen.